dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. La guerre au Soudan détruit les hôpitaux et entraîne une crise humanitaire avec des milliers de morts et des millions d'eau déplacés. Le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire et ses partenaires unissent leurs efforts pour gérer l'afflux de réfugiés burkinabés dans les zones nord du pays. Dans notre fait marquant de la semaine, un flashback sur le discours du Premier ministre burkinabé sur l'état de la nation. Aubin Guébret de notre télépartenaire BF1TV sera avec nous pour en parler. Le festival de la mosquée de Djéné, un véritable joyau du patrimoine malien. Nous découvrons ensemble les moments forts de cette célébration annuelle qui rassemble la communauté locale dans un esprit de partage, de prière et de festivité. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur notre page YouTube en direct. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Les combats au Soudan ont détruit les hôpitaux dans le pays, laissant les patients fuyant le conflit sans accès aux soins médicaux. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie selon l'ONG ACLED, tandis que l'ONU estime que près d'un million et demi de personnes ont été déplacées ou sont devenues des réfugiés. De nombreux déplacés ont trouvé refuge au Tchad voisin, augmentant ainsi la pression sur le pays. Les précisions avec Jacques Aristide.
Sadi Abdelkerim Mahamat, une étudiante en biologie de 24 ans, a été contrainte d'abandonner son village soudanais de Tidelti au début du mois de mai.
Il y avait un conflit entre la communauté arabe et la nôtre. En plus, il y a l'insécurité à cause des affrontements. On a traversé la frontière avec les enfants et toute la famille. On veut protéger les enfants. Ici au Tchad, nos proches tchadiens nous ont accueillis et hébergés chez eux, partageant la nourriture et tout le confort avec nous. Nous ne manquons de rien. Et nous espérons que la situation dans notre pays se stabilisera afin que nous puissions rentrer chez nous si Dieu le veut.
C'est le Tchadien Yacoub Mahamat Abdelkerim, un parent éloigné de 44 ans, qui les a accueillis, de même que 10 autres familles, dans son village de Koufron, où l'un des nombreux camps de réfugiés de fortune a vu le jour.
Certaines des familles ont installé des tentes à l'extérieur, car l'enceinte était déjà pleine.
L'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes a réduit l'approvisionnement en eau dans les régions reculées et arides du Tchad. Les prix ont également grimpé, d'après le commerçant Adam Oumar Abdallah.
Un kilo de farine coûtait entre 600 et 700 francs CFA. Maintenant, il coûte entre 1000 et 1100 francs. Un sac de farine de blé de 25 kilos coûtait autrefois 13 000 francs CFA. Maintenant, il coûte entre 21 000 et 22 000. Les prix ont augmenté tellement.
Peu importe, il faut accueillir les réfugiés à bras ouverts, confie la tchadienne Fana Hamid.
Quand un proche a besoin d'aide pendant cette période difficile, nous ne pouvons pas l'abandonner. Les réfugiés viennent chercher de l'eau chez nous parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter.
Et les réfugiés comme Kaltouma Abdirahman en sont reconnaissants.
Nous sommes arrivés ici à 1h du matin. Quand les propriétaires nous ont vus, ils nous ont logés dans leur maison. Après cela, ils ont tout partagé avec nous, leur cuisine, leurs toilettes, leurs vêtements. Depuis ce jour, nous ne mangeons et ne buvons qu'avec eux. Ils sont très gentils avec nous.
En l'absence d'aide médicale, un pharmacien soudanais qui a fui son pays ces dernières semaines fait ce qu'il peut pour aider d'autres compatriotes réfugiés au Tchad. il y a un mois, Mohamed Adam a rassemblé les médicaments qu'il pouvait. Il raconte avoir chargé les médicaments dans une charrette tirée par un cheval et avoir parcouru les quelques kilomètres qui le séparaient du Tchad. Depuis, il a installé une pharmacie de fortune à Koufroun, un site de réfugiés où vivent environ 10 000 personnes.
Nous avons surtout besoin d'aide pour les enfants, car ils tombent malades à cause des infections, des diarrhées, de la toux, et surtout à cause de la rougeole. Ce sont principalement les enfants qui sont nos patients.
Il dit qu'il achète lui-même les médicaments qu'il donne à ses patients. Madina Ahmed Ishak vient d'arriver à la pharmacie à la recherche d'un traitement pour son bébé Abdelrazek.
Mon enfant est malade du paludisme et il a la diarrhée. Nous n'avons plus de nourriture, donc maintenant, je n'en ai plus. Je prie pour que mon fils devienne un jour médecin.
Selon Mohamed Adam, les réfugiés ont besoin d'une aide accrue de la part de la communauté internationale.
Tout d'abord, j'invite toutes les organisations à but non lucratif et les communautés locales à aider les réfugiés, car ils en ont vraiment besoin. Ils n'ont aucun endroit où se protéger de la pluie, ce qui favorise la propagation des maladies. Nous sommes préoccupés par la propagation du choléra qui pourrait se transformer en épidémie. Ce serait une catastrophe.
Avant le début de la guerre au Soudan, le Tchad, confronté à une pénurie alimentaire aiguë, accueillait déjà plus d'un demi-million de réfugiés des États voisins en proie au conflit. D'après les Nations Unies, on estime que près d'un million de personnes fuiront le Soudan d'ici octobre. La plupart d'entre elles cherchant refuge dans des pays voisins tels que le Tchad, la République centrafricaine, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Malheureusement, la plupart de ces pays sont confrontés à leurs propres problèmes, notamment liés aux personnes déplacées par les conflits, à l'insécurité alimentaire et à l'instabilité.
Voilà le reportage de Jacques Aristide. Henry Wilkins a contribué pour sa réalisation. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon. Elle a visité ces réfugiés soudanais arrivant au Tchad. Patricia, bonsoir.
Bonsoir.
Pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle sur place, Patricia, en vous basant sur votre visite le mois dernier?
Oui, effectivement. Donc, j'ai été dans le village de Koufroun, dans l'est du Tchad, de là où on vient d'entendre des témoignages. Donc, des milliers de familles ont trouvé refuge là-bas, vraiment juste de l'autre côté de la rivière asséchée. Donc, le Soudan est vraiment juste en face, la rivière qui marque la frontière. Donc, ces familles sont éparpillées sur des centaines de mètres autour du village, sous les acacias, généralement à la recherche d'un peu d'ombre pour se protéger du soleil accablant. La plupart n'ont presque rien emporté. Et quand j'étais là-bas, donc la réponse, il y a juste quelques semaines, la réponse humanitaire, on était à son tout début. Depuis, il y a eu plusieurs distributions de nourriture. Des réfugiés ont aussi été transportés vers des camps existants, plus à l'intérieur des terres, des camps qui abritaient déjà des réfugiés du Darfour. Mais les combats se poursuivent actuellement au Soudan et les réfugiés, donc en grande majorité des femmes et des enfants, continuent de passer la frontière vers le Tchad et les organisations humanitaires craignent que la situation s'aggrave encore. Elles craignent aussi l'arrivée de la saison des pluies, là, en ce moment, et elles appellent donc à des moyens supplémentaires pour faire face à la crise.
Et quels sont les enjeux actuels qui émergent dans le conflit au Darfour, qui semble évoluer différemment de la guerre qui a débuté à Khartoum le 15 avril, Patricia?
Effectivement, c'est à partir du 24 avril, donc 10 jours après le début des affrontements à Khartoum, que des combats ont éclaté à Al-Jenina, la capitale du Darfour occidental. Des affrontements entre les deux forces armées rivales, d'abord, donc celle du général Al-Burhan, qui contrôle les forces armées soudanaises, et celle des forces paramilitaires du général Remetki. Donc, ces paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, sont principalement, pas tous, mais principalement issus de la tribu arabe des Rizegat, une tribu qui est d'ailleurs également présente au Tchad. Et donc, il y a des miliciens arabes qui rapidement on rejoint la mêlée en s'associant donc aux forces de soutien rapide. En face, des membres de la communauté massalite, qui est une tribu non-arabe majoritaire dans l'ouest du Darfour, ont vidé le dépôt d'armes de la police et ont affronté ces miliciens arabes. Donc ça veut dire que désormais, à Al-Jalmina, il y a des quartiers qui sont contrôlés par des milices arabes, d'autres par des milices massalites. Il y a des snipers partout, des pièges. C'est une situation absolument horrible.
Patricia, que... en quelques secondes, existe-t-il un risque que ce conflit s'étende au Tchad, dépassant ainsi les frontières du Darfour?
Alors, le Tchad craint évidemment cela, même si les autorités veulent rassurantes. Donc, la présence militaire à la frontière avec le Soudan a été renforcée. Mais il faut quand même rappeler que tout le monde au Tchad sait que les rébellions sont déstabilisées ou renversées. Le pouvoir sont souvent venus de l'est du pays.
Merci Patricia Huon pour toutes ces précisions. Et pour approfondir davantage le sujet, nous avons en ligne avec nous Nadia Levesque, directrice pour l'Afrique de l'Est et centrale chez Chorus International. C'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Nadia, vous êtes basée à Djouba, actuellement vous êtes à New York. Bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre antenne.
Nadia, comment la situation des réfugiés soudanais est-elle comparable ou distincte de celle que nous avons observée dans notre reportage au Tchad? Il y a cette situation notamment au Soudan du Sud.
Elle a beaucoup de similarités, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque les déplacés du Sud-Soudan sont par milliers... 50 000 personnes enregistrées aujourd'hui, donc 93% d'entre eux sont des Soudanais du Sud. Donc ce sont des personnes qui ont déjà fait le voyage dans un sens pour maintenant rentrer chez eux. Ils n'ont peut-être pas la chance de nos amis qui se déplacent vers le Tchad et qui retrouvent des gens qui puissent les accueillir, puisque quelques-uns d'entre eux sont privilégiés et donc ont cela, mais les autres non. Et ils se retrouvent dans des situations bien difficiles où la crise alimentaire qui touche le Sud-Soudan, qui s'aggrave tous les ans en fonction des problèmes climatiques, des conflits qui continuent à exister au Sud-Soudan également par beaucoup de milices, et des déplacements et les crises économiques, tout ceci fait que nous avons des situations très difficiles. La santé est un des problèmes. Nous avons observé les mêmes choses, hein, les problèmes de défécation à l'air libre, car il n'y a pas du tout de sanitation, de latrine, d'eau, d'hygiène. Donc nous avons peur d'épidémies de choléra, le paludisme, les diarrhées aiguës pour les enfants, les infections respiratoires. Tout ceci ont été des choses qui ont été observées également. L'inflation est terrible. Hein. J'étais à Djouba donc il y a quelques mois, c'était 500 livres pour 1 dollar. Aujourd'hui, c'est 1000 livres pour 1 dollar, donc carrément doublé.
Quelles actions entreprend Chorus International pour leur apporter de l'aide?
Alors, pour l'instant, nous sommes en attente de financement et nous négocions sévèrement pour essayer de pouvoir intervenir. Nous attendons donc, nous monitorons la situation régulièrement en participant à tous les clusters. Nous sommes essentiellement dans la santé publique, donc nous sommes présents, nous écoutons l'OMS et écoutons les besoins de façon à pouvoir agir. Nous avons un projet qui se passe en ce moment dans l'état du Djonglé, qui est juste en dessous donc de l'état principal de O'Neill, où les gens arrivent, et donc on sait que dès qu'ils vont passer la frontière, on pourra répondre aux appels. Nos projets sont déjà sur l'hygiène, l'assainissement, la nutrition.
En quelques secondes, Nadia, il nous reste quelques secondes. Existe-t-il une collaboration, une coordination efficace pour répondre aux besoins réels des réfugiés face à cette situation humanitaire sans précédent?
Oui, nous avons la chance effectivement avec ces clusters, donc ces groupes de santé publique, d'avoir l'OMS qui gère un petit peu tous les intervenants, de façon à ce qu'il n'y ait pas de duplication et de façon à ce que l'équipe d'hygiène et les soins de santé de première urgence arrivent aux personnes. Malheureusement, les afflux sont bien plus nombreux que les moyens en ce moment.
Merci Nadia Levesque. Je rappelle que vous êtes directrice pour l'Afrique de l'Est et centrale chez Chorus International.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Voilà, vous nous suivez également en direct sur Facebook et sur notre page YouTube. En Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité et ses partenaires se sont réunis à Ferkessé-Dougou pour coordonner leur stratégie d'assistance face à l'afflux de réfugiés burkinabés dans les zones nord et nord-est du pays. L'objectif est de gérer efficacement ce flux important. Les détails dans ce reportage de Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
À la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés burkinabés sont beaucoup plus présents dans les départements de Kong et de Ouangoulou-Dougou. Et Ferkessé-Dougou a abrité une récente réunion de coordination du Conseil national de sécurité CNS et l'ensemble des humanitaires pour fusionner leur appui en matière de prise en charge migratoire. Le ministre secrétaire exécutif du CNS, Fidèle Sarasoro.
Depuis le mois de décembre de l'année dernière, nous avons eu un afflux de réfugiés en provenance essentiellement du Burkina. Nous avons donc examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination au niveau central, la coordination au niveau local qui sera faite par les préfets de région. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivre et en non-vivre et les questions liées à la situation de la protection de ces réfugiés, mais surtout nous avons parlé également de la question sécuritaire d'une façon générale. Nous avons d'ailleurs félicité et remercié ces populations qui ont accueilli ces populations venues du Burkina.
Les réfugiés racontent leur intégration au sein des familles locales.
Nous sommes ici, ça fait presque une année comme ça. Pour notre premier souci, c'est avoir la paix là où nous sommes.
Dès qu'elles sont arrivées ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, elles sont bien accueillies.
Des mouvements de population que certains habitants tiennent à relativiser.
Nos réfugiés, nous, on avait accueilli dans nos familles. C'est notre voisin, c'est notre famille. S'ils viennent, on ne peut pas les laisser dehors. Pour le moment, on n'a pas fait leur camp.
En effet, le site de transit de Nironigué devant abriter les réfugiés burkinabés est en cours d'aménagement. Bâti sur une superficie de 10 hectares et situé à 3 km de la ville de Ouangoulou-Dougou, il a été visité par la délégation du CNS et ses partenaires. Écoutons à nouveau le ministre Fidèle Sarasoro, il est le secrétaire exécutif du CNS.
Et on voulait s'assurer qu'avec cet afflux-là, on ne prenait pas de risque pour la population d'accueil et la population ivoirienne. Nous allons nous assurer que tous ces sites-là soient sécurisés et l'objectif c'est que dès que les conditions seront réunies, que ces populations-là puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Et les partenaires se sont montrés disposés à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons entrepris un recensement biométrique de ces personnes et aujourd'hui nous sommes en capacité de dire que selon le HCR, ils sont à peu près 21 000, mais il y a 10 000 qui ont été profilés et pour lesquels nous avons des références biométriques.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune longue de 584 km. Et depuis le 29 juillet 2008, les deux pays ont signé un accord de traité d'amitié et de coopération. Delphine Bouguise, Abidjan, VOA, Afrique.
Focus Sahel explore aussi les faits marquants de la semaine. Le Premier ministre du Burkina Faso, Maître Joachim Kielem de Tambela, s'est adressé aux députés de l'Assemblée législative de transition, exposant la situation sécuritaire délétère découlant des attaques perpétrées par des groupes armés. Je suis en ligne avec Aubin Guébré, journaliste de notre télépartenaire BF1 TV à Ouagadougou, au pays des hommes intègres. Aubin, bonsoir.
Bonsoir.
Aubin, quels sujets ont suscité l'intérêt du public suite au discours du Premier ministre?
Oui, bien naturellement, deux sujets majeurs, c'est bien sûr la situation sécuritaire et puis le projet de refondation de la société burkinabé à travers notamment le projet de nouvelle constitution pour passer à la 5e République. Donc sur la sécurité, naturellement, le Premier ministre a annoncé que 65% du territoire sont désormais contrôlés par l'État burkinabé. Donc des progrès dans la lutte contre le terrorisme, de quoi donc susciter l'espoir au sein d'une population meurtrie. Pour ce qui est donc du projet de constitution, il a parlé de mimétisme constitutionnel à bannir parce que cela serait à la base du déficit démocratique que vivent les États d'Afrique francophone. Alors, monarchie ou république, il appartiendra au Burkinabé donc d'en décider à travers les COVED, les comités de veille et de développement créés, cette structure créée par décret présidentiel en avril dernier.
Aubin, vous dites qu'il a déclaré qu'il y a une partie du territoire qui est revenue sous le contrôle du gouvernement. Est-ce qu'il a cité des localités nommément?
Nommément, non, il n'a pas cité de localité. C'est d'ailleurs là aussi qu'au sein de l'opinion, on s'interroge sur la crédibilité de ces chiffres avancés parce que la réalité du terrain aussi, elle est têtue. Des populations continuent de quitter leur localité, ce qui, en tout cas, vient porter un bémol justement à ces chiffres donnés par le Premier ministre justement au cours donc, de ce discours sur la situation de la nation.
Aubin, comment avez-vous abordé la couverture de ce discours dans un contexte journalistique difficile actuellement au Burkina? Avez-vous recueilli des réactions de l'opinion en tendant vos micros?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le contexte est assez difficile. C'est un sale temps pour la presse burkinabé aujourd'hui qui tente tant bien que mal de défendre la liberté d'expression et de presse. Ce n'est pas du tout facile, mais dans l'ensemble, justement, nous avons, à travers justement le compte-rendu de ce grand oral, mais aussi à travers des analyses dans les émissions de départ avec nos analystes politiques, nous avons tenté justement d'éclairer l'opinion sur les enjeux de ce discours-là, à travers également une micro-trottoir au sein de la population qui a pu donner son avis sur ce qu'il pense justement de la conduite donc, de cette transition à travers ce point fait par le Premier ministre.
Et quelle est la perception justement du public de la direction dans laquelle le Burkina se dirige après ce discours?
Il faut dire que les Burkinabés sont partagés. D'un côté, il y a les partisans qui applaudissent, qui estiment que des progrès significatifs sont faits à travers ce qu'a dit le Premier ministre, justement. Et donc, il y a lieu de se remobiliser, de se mettre ensemble derrière la transition pour permettre d'engranger encore plus de victoires pour les partisans donc, de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des motifs d'espoir, il faut donc encourager la transition à poursuivre dans cette dynamique, mais naturellement il y a une autre partie des Burkinabés qui estime que au regard à la réalité du terrain, comme je l'ai dit, où les attaques continuent de se multiplier, où on continue d'enregistrer beaucoup de morts dans les rangs de nos FDS et de nos VDP, et puis les déplacements des populations qui continuent donc avec son lot de problèmes humanitaires. Il est clair que pour une partie des Burkinabés, la réalité est tout autre justement face à ce discours assez reluisant dressé par le Premier ministre. Et donc les populations sont partagées sur cette sortie du chef du gouvernement. Beaucoup attendent encore de voir concrètement des avancées sur le terrain, ce qui n'est pas encore le cas. C'est vrai aussi qu'il y a ce projet de constitution qui divise hein, les Burkinabés. Certains pensent que, à travers ce projet, la transition ne veut plus respecter le délai, l'échéance de JR 2024. Il est clair que c'est un agenda avec ce qui a été donné à voir comme projet de refondation de la société burkinabé. Il est clair que le délai qui est imparti à la transition ne suffira pas. Et donc, on commence à s'interroger sur les intentions réelles de cette transition qui, visiblement, est claire. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a signifié.
Merci,
Aubin. Tant qu'il n'y aura pas assez de sécurité, il n'y aura pas justement d'élection.
Merci, Aubin Guébré. Je rappelle que vous êtes journaliste de notre télépartenaire BF1 TV à Ouagadougou.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria.
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Le crépissage de la grande mosquée de la ville est enfin de retour, marquant un événement culturel majeur, selon de nombreux témoignages. Cette reprise tant attendue est perçue comme un signe d'espoir pour le retour de la paix et la consolidation de la cohésion sociale au Mali, comme suspendue à cause de la sécurité, de la situation sécuritaire. Et cette activité culturelle et touristique revêt une importance particulière, symbolisant la volonté de la communauté de préserver son patrimoine et de renforcer les liens entre ses membres. Le reportage de Tidiano Edraogo à Djéné.
Ce dimanche matin, les populations de Djéné et environ sont sorties massivement pour le dépistage de la grande mosquée de la ville. L'événement était très riche en couleurs. Des chants, des danses, mais aussi de la musique. Tout le monde était au rendez-vous. Nous, Touré, un mention de la ville, nous parle de la construction de la mosquée. La mosquée de Djéné est construite en banco, pas d'autres matières. C'est l'architecture locale, une initiative des mentions de Djéné. Elle a été réalisée en une année de travaux. L'édifice construit à base de banco est aussi un symbole au Grand Sahel à cause de son éloquence, comme nous explique Moussa Diakité de la mission culturelle de Djéné.
Et la mosquée de Djéné, au même titre que les quatre sites archéologiques, sont classés dans le patrimoine culturel en 1982.
Ces dernières années, l'insécurité dans les centres du pays a eu un coup dur sur cette activité culturelle mais aussi touristique. Comme Aminata Nyanté, beaucoup se réjouissent de sa reprise.
Comme vous pouvez le constater, c'est une tradition dans la ville de Djéné. Nous ne les faisions plus à cause de l'insécurité. Mais cette année, nous avons constaté une amélioration, d'où l'organisation d'une grande fête dans ce sens.
Beaucoup de jeunes, la reprise du crépissage de la mosquée peut être une opportunité dans la consolidation de la paix. Moussaba est un jeune de Djéné.
Les gens sont dans la joie et le partage. C'est une occasion aussi pour même ceux qui sont dans d'autres localités du Mali de venir au rendez-vous. Et c'est un brassage culturel. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit perpétrer et au profit de la paix et de la cohésion sociale.
Des touristes venus pour la première fois sont extrêmement satisfaits, mais aussi impressionnés par l'architecture de la mosquée et de la ville en général. Draman Diallo y est pour sa première fois.
Oh bon, à Djéné, j'ai vu beaucoup d'actions culturelles. On a pas loin d'ici la tombe de Tapama Djénébo. On a notre mosquée, comment dire, la grande mosquée qui est tout juste derrière nous. Donc on voit vraiment. Même l'architecture de la ville de Djéné interpelle.
Édifiée en 1907, la grande mosquée de Djéné est le plus grand bâtiment du monde construit en terre crue. Elle est aussi considérée comme étant la représentation suprême du style architectural au Sahel. Tidiane Ouedraogo, Djéné, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à notre merveilleux public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Merci également à nos correspondants sur le terrain, Lionel Runanelagahima sur la mise en onde, Arzuma Compaoré, le streaming live, Eric Manelakiza à la présentation.